18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Et vous le disiez, la perspective d'un confinement qui va durer 15 jours d'efforts supplémentaires au moins, c'est ce que devrait annoncer le Premier ministre d'ici quelques instants. Pas d'assouplissement et davantage de contrôle.
Les commerces ne devraient pas rouvrir, les lycées ne devraient pas fermer. Jean-Rémy Baudeau est à Matignon, on sera avec lui dès le début du journal.
Action symbolique, justement à l'occasion de cette prise de parole, des libraires, des écrivains et des éditeurs font entendre leur voix à bord d'une péniche sur la Seine.
Le coup de massue pour Bridgestone à Béthune. Le gouvernement avait pourtant promis de sauver l'usine de pneumatiques.
Mais le couperet est tombé, elle va bien fermer. 863 personnes y travaillent.
Une anesthésiste qui exerçait en état d'ébriété poursuivie pour un accouchement fatal, condamnée à 3 ans de prison et interdiction d'exercer.
Et puis surtout, essayez d'éviter de crier pour ne pas postillonner. Les Japonais préparent les JO de l'été prochain et ils pourraient exiger le silence des spectateurs. La Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 1,52%. À 5362 points.
Elle ne crie jamais, Anissa. Bonsoir, vous nous avez rejoint pour un point sur la météo. Le temps change demain.
Oui, demain sera certainement la moins belle journée de la semaine, en tout cas sur la moitié nord, puisque le ciel sera gris avec de la pluie au programme. Dans le sud, c'est toujours printanier. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et nous sommes donc dans l'attente de la prise de parole du Premier ministre. Ce nouveau point sur la crise sanitaire avec un gouvernement qui, clairement, n'est pas prêt à lâcher du lest.
Oui, avant même cette prise de parole, Jean Castex a donné le ton dans le journal Le Monde. Ce n'est certainement pas le moment de desserrer la bride, ce sont ces mots.
Alors on vous retrouve à Matignon, Jean-Rémy Baudeau, vous serez avec nous tout au long de ce 18-20. Et on le disait, Jean-Rémy, assez peu d'espoir d'une amélioration de nos conditions de vie.
Oui, le mot d'ordre ce soir, c'est statu quo. À Matignon, on le reconnaît, il est trop tôt pour changer de stratégie. Le pic des hospitalisations n'est pas atteint. Il serait aventureux d'ouvrir les vannes, fait valoir un proche collaborateur du Premier ministre. Jean Castex, qui devrait rappeler que l'heure n'est pas au relâchement. Oui, les chiffres sont encourageants, mais ils vont encore augmenter. Le Premier ministre en première ligne, c'est lui qui porte la clause de revoyure après 15 jours de confinement promis par Emmanuel Macron. C'est donc lui qui portera les éventuelles critiques des commerçants déçus si effectivement il n'y a pas de nouvelle réouverture. Il faut qu'il explique, qu'il donne des perspectives, reconnaît son entourage, au risque de laisser une partie des Français dans l'incompréhension. L'épisode des librairies a fait craindre au plus haut sommet de l'État que la population ne se cabre. Comme le reconnaît un proche de Jean Castex, on ne fait certainement pas tout bien. Mais on ne gouverne pas en fonction des sondages.
Jean-Rémy Baudeau, vous suivez pour nous cette conférence de presse du Premier ministre et vous nous appelez évidemment à tout moment dans le courant de ce journal dès que vous en savez davantage.
C'est l'autre actualité de ce jeudi. L'usine de pneumatiques Bridgestone de Béthune dans le Pas-de-Calais va bien fermer. La direction a refusé le plan de sauvetage proposé par Bercy.
863 emplois vont disparaître. C'est un deuxième coup de massue après l'annonce de la fermeture du site le 16 septembre.
Oui, le ministère de l'économie avait pourtant, on s'en souvient, présenté ce plan qui prévoyait la poursuite de l'activité et le maintien d'un peu plus de 500 postes.
Un plan qui vient donc d'être rejeté. Lionel Gougelot, vous êtes sur place pour Europe 1 et pour les salariés, Lionel, c'est la fin des illusions.
Ah oui, effectivement, mais vous savez, pour les salariés ou les représentants syndicaux avec qui j'ai discuté cet après-midi, il n'y en avait pas beaucoup pour croire à ce scénario d'un investissement massif pour leur usine. Pour eux, la fermeture était en fait programmée et le site déjà condamné depuis plusieurs mois. Mais c'est vrai, ils accusent à nouveau le coup ce soir.
Là, c'est même pas de la colère, c'est de la tristesse, quoi. C'est de la façon que Bridgestone l'a fait pendant une période de Covid en plus. Maintenant, on a un sentiment d'avoir été baladé.
Deuxième claque, on s'est pris une claque le 16 et on s'est pris une claque aujourd'hui, le 12. On a 863 salariés. C'est très dur pour nous, très très dur pour nous.
Pour l'instant, on n'arrive pas encore à imaginer, mais le jour que ça sera le dernier jour, là, ça sera difficile.
Alors maintenant, il va y avoir la mise en œuvre du plan social. Le géant japonais du pneu assure qu'il va chercher un repreneur, des solutions de réindustrialisation ou de reclassement pour les salariés. Mais la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, attend des propositions concrètes.
Ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait pas que des paroles, mais qu'il y ait des actes et des actes forts sur les possibilités de reprise. Nous allons nous battre pour que ce site reste industriel et nous battre pour que chacun des salariés, chacune des familles qui sont aujourd'hui en situation de difficulté puisse trouver une solution.
En attendant, il va falloir contenir les mouvements de colère au sein de l'usine, me confiait tout à l'heure un responsable syndical, car cette fermeture, elle va faire beaucoup de dégâts dans les familles.
Lionel Gougelot à Béthune, dans le Pas-de-Calais. On ne vous laissera pas tomber, avait promis Jean Castex fin septembre aux salariés de Bridgestone. La ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, s'est beaucoup investie dans ce dossier. Elle est allée sur place à plusieurs reprises. Le gouvernement avait donc promis de trouver une solution.
Oui, et ce soir, l'opposition politique s'indigne, Louis Dragnel.
Oui, c'est un dossier qui tombe mal pour le gouvernement. L'opposition a immédiatement réagi pour s'indigner, à commencer par Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France.
Le bras de fer continue parce qu'il faut que Bridgestone arrête de jouer la montre et arrête de jouer avec les nerfs des salariés. Mais maintenant, ils ne vont pas partir comme ça. Ils ne vont pas partir comme ça parce qu'on est en France. On ne jette pas les salariés comme des Kleenex. Et donc aujourd'hui, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils mettent le maximum pour que les salariés puissent individuellement rebondir et pour que ce territoire puisse rebondir.
La présidente du Rassemblement national, qui est aussi députée du Pas-de-Calais, Marine Le Pen, a, elle, désigné un responsable. C'est l'échec d'un État sans vision stratégique et c'est un drame pour toute notre région. De son côté, le député La France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens, a attaqué nommément le chef de l'État. Les discours de Macron sur la souveraineté industrielle, c'est du flan.
Louis Dragnel du service politique d'Europe 1.
Le jugement pour l'anesthésiste de la maternité d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques à présent, jugé pour homicide involontaire après la mort d'une jeune mère de famille.
Il y a 6 ans, elle était intervenue ce jour-là sous l'emprise de l'alcool lors d'un accouchement par césarienne. Une série d'erreurs avait conduit à la mort de la maman. Stéphane Place, l'anesthésiste qui a reconnu les faits, écope donc de 3 ans ferme.
Oui, une condamnation conforme aux réquisitions. 3 ans de prison, c'est aussi la peine maximale pour homicide involontaire. Xin Kiaok, en septembre 2014, accouche par césarienne dans cette clinique d'Orthez. Une opération qui tourne au cauchemar pour cette jeune femme de 28 ans. La patiente se réveille, gémit, articule péniblement qu'elle a mal. La malheureuse, dont l'enfant est sauvé, succombera, elle, 4 jours plus tard. Ivre au moment de l'intervention, mélange d'eau et de vodka pour commencer la journée. L'anesthésiste belge a en fait multiplié les erreurs, intubé les voies digestives, pas les voies respiratoires. Durant l'audience, Helga Wauters a brièvement pris la parole pour dire qu'elle regretterait cette tragédie toute sa vie. Aujourd'hui, le tribunal a interdit définitivement à cette médecin belge de 51 ans, alcoolique, d'exercer la médecine. Helga Wauters, qui vit en Belgique, va devoir se présenter devant le juge de l'application des peines pour un aménagement ou pas. À l'époque des faits, elle avait effectué 2 mois de détention provisoire.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h09, la suite du journal d'Isabelle Millet. On suit bien sûr la conférence de presse de Jean Castex, le Premier ministre qui fait le point en ce moment sur l'évolution de la crise sanitaire et qui nous dit que cette seconde vague est extrêmement forte. 40%, dit-il, des personnes admises en réanimation auraient moins de 65 ans. Le Premier ministre qui ne devrait pas, en revanche, décider tout de suite, en tout cas, d'un assouplissement du confinement. On devrait attendre cela, pas avant le 1er décembre.
Oui, et pas d'assouplissement non plus des mesures de restriction. Jean-Rémy Baudot, qui est sur place à Matignon, nous appelle dès qu'il a des informations supplémentaires. Les commerçants en particulier, vous le savez, aimeraient bien entendre ce soir qu'ils ont le droit de rouvrir les commerces non essentiels. Faute de réouverture, ils espèrent à minima un calendrier afin de pouvoir s'organiser. On verra si ce sera le cas.
Et en attendant cet après-midi, des éditeurs et des écrivains se sont justement réunis à Paris en ce jour de prise de parole de Jean Castex pour une action symbolique à bord d'une péniche sur la Seine, Pierre Herbulot.
Oui, pour naviguer sur la Seine en plein cœur de ce qu'ils appellent la capitale du livre. Ils n'ont pas 36 000 revendications, ils n'en ont qu'une, comme le dit Jérôme Calais, bouquiniste parisien.
La réouverture, tout simplement, moi j'ai plein de mes collègues qui m'appellent au quotidien en me disant « Mais alors, quand est-ce que tu crois qu'on va pouvoir ouvrir ?» Parce que bon, en plus on a pris des mesures, tout le monde a ses flacons de gel, tout le monde a son masque.
Tour à tour, libraires, éditeurs et auteurs ont pris la parole.
Il n'est pas possible que Macron trouve ça normal qu'il y ait des bâches sur les bouquins. Donc à un moment donné, le métier d'un chef de l'État, c'est aussi d'arbitrer entre des groupes de pression. Soyons groupe de pression de notre culture.
Même s'il ne croit pas vraiment à l'annonce d'une réouverture des librairies ce soir, Johann Sfar, qui vient de sortir le 5e tome de l'Arabe du futur, est venu défendre ce qu'il appelle la chaîne du livre.
Je pense que les libraires ont raison. Je pense que le livre n'est pas un produit comme un autre. On ne peut pas survivre sans livre. Et je vois bien les railleries de gens qui disent « Mais vous pouvez bien vous passer de livre pendant quelques semaines. » Non. Et on n'est pas aveugle au drame sanitaire que vit le pays. On considère juste que le livre est un produit exceptionnel.
Alors, vous le disiez, c'était une action symbolique, un échange interprofessionnel, mais qui ressemblait à s'y méprendre à une manifestation, évidemment interdite en période de confinement. Ce que la police fluviale s'est chargée de rappeler à tout le monde en abordant le bateau, en le raccompagnant au quai et en contrôlant toutes les attestations à sa sortie.
Et la vôtre donc également. Merci Pierre Herbulot.
Et donc des réponses dans les minutes qui viennent avec l'annonce des arbitrages par Jean Castex. C'est en ce moment, on suit ça évidemment en direct et en fil rouge sur Europe 1.
Avec en particulier toujours l'incertitude sur le sort des lycées où les mesures sanitaires devraient être encore renforcées, mais a priori pas de fermeture pour l'instant.
Ce coup de théâtre à présent dans l'affaire du présumé financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, l'homme d'affaires Ziad Takieddine s'est rétracté.
Oui, il retire toutes ses accusations à l'encontre de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui du coup demande l'annulation de sa mise en examen. Annulation peu probable, d'autant qu'il y a eu cette mise au point, hein, il y a quelques instants, du parquet national financier. Les charges contre Nicolas Sarkozy ne se limitent pas aux déclarations d'une seule personne, mais se basent sur des indices graves et concordants.
Et Et puis toujours à propos de Jeux Olympiques et de Covid, maintenant on parle des Jeux Olympiques qui se tiennent à Tokyo l'an prochain, qui ont donc été repoussés d'un an. Casse-tête en vue, on vous le disait dans le teasing juste avant la pause, pour l'organisation et pour l'accueil du public.
Oui, effectivement. Et Corinne Boulot, les Japonais se préparent à toutes les éventualités et notamment celle d'une épidémie qui serait encore active. Et parmi les dispositifs étudiés, il y en a un, Corinne, qui vous a interpellée.
Oui, le comité d'organisation a émis l'idée de demander au public de rester zen en tribune, d'éviter de hurler sa joie ou sa déception pour éviter tout simplement de répandre des postillons vecteurs du virus. Je vous entends sourire derrière vos masques, mais cette mesure a vraiment été mise en place le week-end dernier lors d'une compétition de gymnastique au Japon en présence de 2000 spectateurs masqués après désinfection des mains et prise de température. Le public avait pour consigne de ne pas crier et de parler à voix basse, consigne visiblement respectée pour que ce matin, le comité d'organisation des Jeux évoque la possibilité d'adapter ce monde du silence en tribune olympique l'été prochain. Le CIO se dit de plus en plus confiant sur la présence de spectateurs en nombre raisonnable tout de même à Tokyo. Le comité d'organisation s'interroge, lui, sur la faisabilité d'interdire toute acclamation. C'est vrai que des Jeux sans ferveur, autant les organiser à huis clos. Là, au moins, il n'y aura pas de postillons en tribune. Mais on peut comprendre les organisateurs japonais qui avancent vers l'échéance sans certitude et tentent de trouver des solutions aussi étonnantes soit-elle pour maintenir l'événement.
Merci beaucoup Corinne Boulot.
Et puis annonce à l'instant de Jean Castex, il serait irresponsable, dit le Premier ministre, d'alléger ou de lever les mesures. On laisse donc le dispositif inchangé pendant encore 15 jours, dit-il.
Julien, je voudrais qu'on écoute ensemble quelques notes de musique. C'était le 13 novembre 2016, un an jour pour jour après les attentats des terrasses et du Bataclan, la première fois que l'on entendait de nouveau de la musique dans la salle de concert. Demain, ce sera le cinquième anniversaire de cette tragédie qui a fait 90 morts. Et cet artiste qui rejouait au Bataclan, vous l'avez reconnu bien sûr, c'est Sting. Sting qui sera demain l'invité exceptionnel de Mathieu Béliard à 7h40 dans le tête-à-tête d'Europe Matin. Il reviendra sur ce moment qui a évidemment marqué sa vie.
Bien sûr, interview exclusive donc à découvrir demain dans la matinale de Mathieu Béliard. Merci Isabelle, à tout à l'heure pour le rappel des titres avec les dernières infos concernant les annonces de Jean Castex. Et puis bien sûr, on vous retrouve à 19h pour le grand journal de l'info. 18h14, la météo avec Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce malheureusement une dégradation du temps demain.
Oui, mais ça va juste se contenter à vendredi parce que le beau temps revient dès samedi. Donc vraiment, c'est une journée où il va falloir prendre son mal en patience demain. Alors cette nuit, nous avons une perturbation qui entre sur le pays par la Bretagne. Demain matin, des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France. Donc vous l'avez compris, sur tout le quart nord-ouest du pays, le ciel est couvert, le temps humide avec quelques averses. C'est sur les Pays de la Loire qu'il va le plus pleuvoir demain matin. En Lorraine aussi, et en Alsace, nous aurons quelques petites gouttes demain matin. Et puis de la Vendée à l'Alsace, en passant par le Centre-Val de Loire et la Bourgogne-Franche-Comté, sur toutes ces régions, demain, le ciel va alterner entre nuages et éclaircies, ça reste assez couvert. En Auvergne-Rhône-Alpes, comme depuis plusieurs jours, pas mal de brouillard matinaux, soyez prudents. Et puis, dans le sud, au bord de la Méditerranée, toujours ces entrées maritimes. C'est vrai que nous avons un programme avec cet anticyclone qui stagne au-dessus de la France. Nous avons un programme assez répétitif, à part voilà, un peu plus de nuages pour demain. Les températures, elles sont toujours les mêmes, toujours 4 degrés au-dessus des moyennes de saison, avec 5 à 11 demain matin, 14 à 17 sur la moitié nord demain après-midi et 16 à 22 degrés dans le sud.
Voilà, c'est carrément le printemps. Hein.
Ah bah dans le sud, c'est le printemps.
16 à 22 degrés, incroyable.
Et merci. C'est dans le sud-ouest qui fera le plus beau demain.
Bien, merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure un nouveau point météo.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h19, notre invité ce soir, il est l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la modélisation épidémique, directeur de l'Institut de Santé Globale de Genève. Bonsoir professeur Antoine Flahaut, merci d'être avec nous ce soir alors que Jean Castex fait ses annonces en ce moment même. On a besoin, c'est vrai, d'avoir vos lumières et votre éclairage. D'abord, une première réaction sur cette décision de maintenir les contraintes sanitaires pour au moins 15 jours. Est-ce que c'est le bon choix ?
Ah oui, c'est certainement le bon choix parce que on est au sommet de la vague. La bonne nouvelle, c'est que on a atteint ce sommet et que elle commence déjà à redescendre et qu'il faut maintenir cette pression sur le virus, cette pression collective, en bougeant le moins possible, oui, en ayant le moins d'interactions possible, pour jusqu'à ce qu'on ait repris vraiment le contrôle et qu'on soit dans cette zone de sécurité que l'on peut déjà envier aux Irlandais, par
15
exemple.
15 jours, ça vous paraît suffisant ? 15 jours supplémentaires.
Alors, les Irlandais ont mis à peu près 15 jours pour dévaler la pente et revenir dans cette zone de sécurité dont je parle. Donc, c'est possible si on arrive à faire qu'en France, on est à peu près dans la même situation en Suisse d'ailleurs, à descendre avec un taux de reproduction de l'épidémie qui est le fameux R, qui arriverait à des valeurs de 0,7 ou de 0,6.
Oui. Mais justement, ce fameux indicateur R0, il est repassé sous la barre des 1 aujourd'hui.
Oui, alors ce taux de reproduction, c'est simple à comprendre, hein, parce que c'est le nombre de personnes qu'on contamine en moyenne quand on est soi-même contaminé.
Oui, c'est le taux de transmission du virus. Mais ça y est, il est repassé en dessous de 1.
Oui, il est au-dessous de 1. Quand on est au-dessus de 1, il y a un risque épidémique, et c'est cette fameuse croissance exponentielle qu'on a connue, non contrôlée, et qui est très inquiétante parce qu'elle ne fait que monter, elle peut monter très, très vite et très haut. Lorsqu'on arrive à 1, on est en plateau, ça ne descend ni ne monte, et il faut être à 0,5 ou à 0,6 pour véritablement descendre, et aujourd'hui, la France est en au-dessous de 1, donc elle est en descente.
Bien, c'est une bonne nouvelle, car ça veut dire que le tassement des contaminations qu'on observe depuis quelques jours est en train de se confirmer. C'est d'ailleurs ce qu'a laissé entendre à l'instant le Premier ministre Jean Castex. Est-ce que vous attribuez, professeur, cette amélioration au reconfinement, même s'il est plus light, ou c'est l'effet des vacances scolaires pendant lesquelles le brassage des 12 millions d'élèves a été interrompu? Je vous pose la question, car tous les grands spécialistes nous disent qu'il faut en moyenne entre 15 et 21 jours pour sentir les effets d'un confinement. Or, nous n'en sommes aujourd'hui qu'à 10 jours.
Oui, alors les Irlandais, en quelques jours, ont eu les effets du confinement. Donc vous avez raison, ils ont raison, les spécialistes qui vous disent qu'il faut 15 jours. Mais en réalité, c'est anticipé. Le confinement est une décision politique, mais elle est anticipée par la population. On sait cela, ce n'est pas des conjectures, on le sait parce que les données de mobilité de la population française ont baissé un peu avant que les décisions de confinement soient prises. C'est-à-dire que les Français ont pris conscience de l'imminence d'un risque, et ils ont probablement cautionné pour une grande part l'idée qu'il était nécessaire d'avoir ces mesures de confinement, mais ils se sont auto-confinés. Oui. Et les Irlandais, de façon très claire, s'étaient très fortement auto-confinés peu de temps avant, une quinzaine de jours avant les décisions gouvernementales. Donc on voit ça dans tous les pays, c'est-à-dire que les gouvernants dans les démocraties, bien entendu, prennent des décisions lorsqu'il y a une attente et je dirais même une participation de la population au phénomène.
Antoine Flao, professeur, vous avez raison de prendre l'exemple irlandais car il est emblématique de ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Vous savez qu'en France, ça ne vous a pas échappé, il y a un débat très fort sur l'ouverture des petits commerces dont beaucoup ce soir ne voient pas de perspective pour l'ouverture de leurs petits commerces et pour sauver Noël qui est un moment évidemment essentiel pour la survie de leur activité. Il y a quelques semaines, vous disiez, vous, professeur, que les petits commerces non essentiels pouvaient rester ouverts dans une certaine mesure, précisément comme en Irlande. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cette prise de position ?
Alors, ce que je pensais, c'était qu'il fallait qu'il y ait un confinement. Il fallait que les gens réduisent drastiquement leurs interactions. Ça pouvait être... Il y a une panoplie de mesures. Le confinement, ce n'est pas un package unique. Hein. Et parmi les mesures que l'on aurait pu prendre, ça aurait été de fermer les collèges et les lycées. En fermant les petits commerces non essentiels, mais en laissant ouverts les collèges et les lycées, il y a eu un choix qui a été pris en France, peut-être de privilégier l'éducation, car c'est un autre problème que de risquer des décrochages scolaires.
Bien sûr.
Ça creuse les inégalités
mais
sociales.
Mais professeur, vous savez, ce qui choque beaucoup les commerçants chez nous en France, c'est la dimension unilatérale de ces mesures et de ces interdictions d'ouverture. Alors il y a une grande étude fort intéressante qui a été réalisée aux États-Unis, qui a été publiée dans la revue Nature. On y apprend que oui, les restaurants sont un lieu de contamination fort, par exemple, mais pas les petits commerces. Pas les petits commerces parce qu'on y porte les masques. Ça fait réagir quand même cette étude. Ça veut dire qu'on pourrait laisser ouvrir d'une façon rationnelle, peut-être organisée, les petits commerces sans risque de contamination et de circulation du virus.
Oui, vous êtes bien informé parce que cette publication a dû être publiée hier, je crois, et tout à fait, elle est extrêmement intéressante. Elle porte sur beaucoup de une étude de sur la mobilité des Nord-Américains et qui est tout à fait probablement transposable, en tout cas en bonne part, à l'Europe. Oui, les petits commerces non essentiels ne sont certainement pas des lieux de forte contamination. Les bars et les restaurants, malheureusement, sont en dehors des terrasses ou des endroits très bien ventilés, mais sont des lieux de clusters, des lieux de foyers qui ont été bien repérés. Ces petits commerces sont cependant des lieux où les gens vont avoir des interactions parce qu'ils vont s'y déplacer si jamais ils ouvrent trop tôt. Donc je pense que c'est certainement pas le moment. Encore une fois, si le choix avait été fait peut-être de fermer les collèges et les lycées, peut-être on aurait pu faire le choix d'ouvrir les
petits
collèges.
Mais pas les deux en même temps.
Mais si on ouvre les deux en même temps, on va multiplier les interactions, les transports publics vont être plus bondés, etc. Et malheureusement, j'ai tout à fait conscience que c'est un énorme problème pour ceux qui en sont les propriétaires ou les gérants. Il faut que ce soit le plus court possible. Ce que nous ont démontré les Irlandais, c'est qu'on pouvait faire ce confinement d'une façon très brève, très forte, et recouvrer beaucoup plus vite son économie et sa vie sociale.
Sur les solutions possibles également, professeur Antoine Flao, l'option d'un confinement alterné une semaine sur deux, c'est ce que proposent certains scientifiques, comme le docteur Nava Schulman par exemple. Ça diviserait, dit-il, par quatre les chances de contamination. Est-ce que vous y croyez? Ça veut dire diviser la population en deux groupes qui sont confinés par alternance une semaine chacun.
C'est peut-être une bonne solution pour les écoliers, enfin en tout cas pour les collégiens et les lycéens, c'est-à-dire pour éviter ce fameux décrochage scolaire. On pourrait imaginer que pendant quelques mois d'hiver, si vraiment l'épidémie est difficile à contrôler, on pourrait imaginer ce type de méthode. Sur l'ensemble de la population, je pense que ce sera très vite invivable. Il faut tout faire et éviter maintenant qu'on ait à faire ces yo-yo dont vous parlez.
Dernier point, question que se posent évidemment tous les Français qui nous écoutent. Un Noël en famille, si les chiffres continuent de s'améliorer, comme c'est le cas aujourd'hui, est-ce que c'est possible?
Alors, Noël en famille, si on est en décrue complète, c'est des choses possibles. On ne sera plus confiné, donc on devrait pouvoir, en effet, vivre Noël en famille. Dire que les fêtes intergénérationnelles avec plusieurs membres de la famille, avec des grands-parents, etc., soit une recommandation qu'on fera, ça m'étonnerait. Au cœur de l'hiver, la pression sur le virus sera encore forte. Ces gens seront extrêmement à risque. En revanche, peut-être qu'on peut avoir des aménagements. Il faut savoir que dehors, on n'a pas de risque, ou peu de risque de transmission de ce virus. Il faut savoir qu'on peut mettre des masques. Il faut savoir qu'on peut aussi se voir pas très longtemps. Il y a un certain nombre. On peut ventiler davantage, chauffer un peu, puis ventiler davantage les locaux et se voir peu de temps. Enfin bref, on a un certain nombre d'aménagements possibles qui ne rendront pas les festivités de Noël sans doute analogues à celles que l'on connaît d'habitude dans notre Occident, mais qui devraient les permettre.
Ouais, c'est ce que dit à l'instant d'ailleurs Jean Castex. Il n'est pas raisonnable d'organiser de grandes fêtes en fin d'année. Voilà pour cette déclaration du Premier ministre. Merci professeur de nous avoir apporté votre éclairage sur ces quelques minutes à 18h20 dans Europe Soir. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec le rappel des titres d'Isabelle Millet.
Et il serait irresponsable d'alléger le confinement, dit ce soir Jean Castex, car l'impact sanitaire de la crise reste très lourd. La deuxième vague est extrêmement forte. Confinement maintenu donc pour au moins 15 jours. Le Premier ministre confirme que la situation est trop sensible pour prendre le moindre risque. Un décès sur quatre aujourd'hui est lié au virus. Le Premier ministre qui précise que 40% des personnes admises en réanimation ont actuellement moins de 65 ans. Pas de réouverture non plus des commerces non essentiels pour l'instant. Et quoi qu'il arrive, les bars et les restaurants resteront fermés en cas d'allègement du confinement le 1er décembre. Cet allègement pourra éventuellement donc être envisagé pour les commerces. En revanche, le 1er décembre, à condition toutefois que la situation s'améliore. Et puis l'espoir d'un Noël en famille, à condition seulement de limiter les rassemblements en petit nombre, dit le Premier ministre, organiser des grandes fêtes ne serait pas raisonnable. Bridgestone, le groupe japonais, va fermer son usine de pneus de béton Béthune, dans le Pas-de-Calais. La direction a fermé la porte au plan de sauvetage proposé par Bercy, qui voulait sauver une majorité des 863 emplois en jeu. Puis la mise au point ce soir du parquet national financier. Les charges contre Nicolas Sarkozy ne se limitent pas aux déclarations de Ziad Takieddine, mais se basent sur des indices graves et concordants. L'homme d'affaires a retiré hier toutes ses accusations à l'encontre de l'ancien président dans l'affaire du présumé financement libyen de la campagne présidentielle.
Merci Isabelle, à tout à l'heure. Un coup d'œil au temps.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Avec Anissa et comme d'habitude, du gris au nord et plus ensoleillé au sud.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu le programme hein, depuis plusieurs jours. Alors demain, nous avons une nouvelle perturbation qui arrive. Le quart nord-ouest sera donc sous les nuages et la pluie, des petites pluies, je vous rassure, c'est une perturbation peu active demain. Et puis au sud de la Loire, vous le disiez Julien, ça sera encore printanier avec des températures très agréables. 4 à 13 demain matin et 13 à 21 degrés sur l'ensemble du pays.
Merci Anissa, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h34, place au débat des grandes voix à présent avec à mes côtés ce soir Michel Cotta. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Emmanuel Ducrot, journaliste éditorialiste à l'Opinion. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à l'hebdomadaire Challenge. Ravi de vous accueillir Guylaine.
Bonsoir.
Bonsoir. Et on commence donc avec la politique de contrôle des mesures sanitaires. Jean Castex en a parlé et on garde un œil évidemment sur la conférence de presse qui se poursuit. On vous en parlera s'il y a des annonces fortes qui arrivent dans la prochaine demi-heure. Mais ce que l'on sait, c'est que les contrôles auprès des Français sont renforcés pour vérifier les attestations et les droits de sortie. Alors contrôler plus, c'est bien, mais est-ce efficace? Et j'irai même plus loin, est-ce que ça n'est pas au final contre-productif dans un contexte déjà très fort de défiance? On écoute le Premier ministre.
Nous constatons dans certaines zones ou parties du territoire un respect encore insuffisant de ces règles. Après une première phase de nécessaire pédagogie, j'ai donné au ministre de l'Intérieur des consignes de fermeté et lui ai demandé d'accroître encore la mobilisation des forces de l'ordre, notamment à Paris, en Ile-de-France et dans les grandes métropoles.
Voilà, on joue la peur du gendarme, a dit le Premier ministre. Est-ce que c'est le bon moment pour le faire, Emmanuel Ducrot? Est-ce que ça ne risque pas, comme je le disais, de cristalliser encore un peu plus la colère et la défiance des Français?
C'est compliqué parce que quand on a allégé le confinement, c'est-à-dire dit bah, vous pouvez travailler un peu quand même, vous déplacer un peu quand même, aller chercher vos enfants un peu quand même, c'est compliqué de mettre des règles qui sont d'un coup beaucoup plus strictes pour les contrôles. Ça veut dire qu'on ne comprend plus très bien. On est dans un risque de perception d'un arbitraire du contrôle, avec des voix qui s'élèvent. Et effectivement, on voit bien que quand même, il y a une fatigue, une exaspération. Alors là, peut-être que les déclarations du jour qui laissent entrevoir quand même une vague lumière au bout du tunnel, ça rend les choses un peu plus supportables. Mais je pense que c'est un outil qu'il faut vraiment doser avec beaucoup de prudence.
Et puis, on respecte un peu moins les règles. C'est vrai, vous avez vu ce sondage qui est sorti aujourd'hui. 60% des Français disent s'être un peu arrangé avec les attestations pour aller voir de la famille, pour aller voir un ami ou pour sortir un peu plus longtemps que l'heure autorisée. Moi, il y a un mot qui m'a frappé aujourd'hui dans la déclaration de Jean Castex dans le journal Le Monde. Il a dit « ça n'est pas le moment de desserrer la bride », comme si c'était la bride. Vous comprenez l'expression, Guylaine? On a encore une fois l'impression d'infantiliser un peu les Français.
Ah non, mais moi, j'ai toujours eu le sentiment que Jean Castex avait un côté proviseur de province des années 50. Alors, les classes où les noms commencent par A et B, vous allez dans la salle 42, voilà, d'un ton monocorde, et finalement, on ne suit pas. Il ne fait pas de politique. C'est une conférence de presse qu'aurait pu faire M. Salomon, au fonctionnaire. Il est Premier ministre, chef de la majorité. Il doit répondre aux oppositions, à la grogne qui monte.
Et ça n'est pas ce qu'il fait.
Cela dit, vous avez raison de poser la question, est-ce que, compte du niveau de conscience, on peut mettre des sanctions plus sévères?
Là où Et après, le niveau d'effort qu'on a demandé aux Français depuis presque un an.
Là où il y a des sanctions fortes, il y a de la confiance. On dit toujours que ça se passe bien dans les pays du Nord. On cite l'Irlande en exemple, mais les gens sont plus citoyens, etc. Oui, ils sont plus citoyens. Ils dénoncent le voisin dès qu'il y a quelqu'un qui va dans l'appartement. Et surtout, les policiers ont le droit de mettre des amendes qui vont jusqu'à 2 500 euros et 6 mois de prison. Là, vous faites quand même très attention à ne pas avoir 5 attestations avec 5 heures différentes dans votre poche. Parce que ça peut coûter très cher.
Ça peut coûter
là,
cher.
135 euros, on se dit bon, allez, je ferai attention si je prie. Mais...
Et d'ailleurs, même les syndicats de policiers disent que c'est compliqué. On est déjà tellement sollicités, disent-ils, face à la menace terroriste, on leur demande même, paraît-il, d'arpenter les rayons de supermarché pour vérifier que les règles sont respectées entre les produits essentiels et non essentiels.
Michel Cotta. C'est pour ça que c'est une peur du gendarme plus affichée que réelle.
Oui.
C'est-à-dire,
mais est-ce que ça ne risque pas de braquer les
Français? À la fois, le gouvernement ne peut pas dire allez-y, on s'en fiche, on vous demande rien. Bon, parce que c'est quand même effectivement, on est à un stade dangereux. Et à la fois, comme on le fait dans d'autres pays, arnaquer, parce que, enfin, à affliger aux gens une pénalité de 3 500 ou de 6 mois de prison.
On avait même dit 10 000 euros à un moment d'amende.
Oui, ça paraît aberrant. Donc je trouve qu'évidemment, comme vous le disiez, c'est pas si commode et tout est dans l'équilibre. Et les équilibres.
On est toujours dans le même paradoxe, Emmanuel Ducrot. On dit qu'il ne faut pas infantiliser les Français et puis on finit par faire l'inverse.
Bah, quand on dit tenir la bride, moi je trouve que c'est très infantilisant comme
c'est un très mauvais discours. Terme.
Bah, on parle de quoi, d'équitation ou de quelque chose comme ça, ce n'est pas très bien choisi. Moi personnellement, ces images de policiers dans les supermarchés qui contrôlaient les rayons, j'ai trouvé que c'était totalement déplacé. Il y a certaines préfectures qui ont communiqué sur ces images-là. Je me suis dit, on est quand même dans un moment où les gens ont l'impression qu'on leur serre la vis, qu'on restreint leur liberté. Et par ailleurs, on a quand même une menace terroriste qui est quand même toujours là. Et avoir des policiers qui sont mobilisés pour aller voir si on vend des chaussettes et du mascara, c'est pas très, une très bonne idée. Enfin, c'est déplacé.
Alors, la confiance et la défiance vis-à-vis du gouvernement et de l'exécutif, on continue d'en parler dans quelques secondes. 18h39, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h40, on est toujours ensemble avec le débat des grandes voix. Michel Cotta, Emmanuel Ducrot de l'Opinion, Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à l'hebdomadaire Challenge. On parlait du niveau de défiance juste avant la pause des Français. C'est vrai qu'on sent une colère sourde qui monte et vous disiez à juste titre tout à l'heure, Guylaine, qu'il y a un moment très politique que le Premier ministre n'arrive pas à saisir.
Oui, bah, tout à fait, parce que bon, faut dire que la situation est extrêmement difficile. Le premier confinement, 91% des Français l'admettaient. Là, on est à 70 ou 75 selon les sondages. Pourquoi ? Parce que la règle n'est pas générale. Oui. Elle n'est pas pour tout le monde. Alors c'est très dur de dire le couperet tombe. Pour les petits commerces, bah oui, 75% des Français font leurs achats dans les hyper. Il y a des tas de parties du territoire où il n'y a plus de petits commerces, il n'y a que l'hypermarché, donc on a privilégié l'hypermarché sur le petit commerce. Et imaginez qu'il n'y ait que le petit commerce, que tout le monde se précipite là, tout le monde dirait « quelle folie, on a assez le petit commerce ».
Avec des trucs de
Mais
dingue,
une fois
quand
qu'on
même,
a fait ces choix...
Je ne sais pas si vous avez vu le reportage ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France, où on apprend qu'à Saint-Étienne, par exemple, il y a un centre commercial géant qui s'appelle Style, 1600 places de parking, 70 000 mètres carrés de magasins. Il est ouvert en ce moment et il a contaminé, selon les estimations, à peu près 600 000 personnes. Donc on laisse des gens se contaminer dans les centres commerciaux et puis les petits commerces, on les laisse fermer.
Mais une règle, à partir du moment où elle n'est pas générale pour tout le monde, elle est forcément injuste. Mais même, pourquoi est-ce qu'on a le droit de passer le permis à 18 et pas à 16 et pas à 19 vers toute règle, elle est fait à un moment, elle est stupide. Simplement, il faut que la personne qui l'a fait respecter ou qui l'a décidé doit l'assumer et l'expliquer et dire que chaque fois qu'on sort, on provoque un risque de contamination parce qu'on touche l'ascenseur, on touche la porte d'entrée, on prend un autobus, n'importe quoi. Donc il faut expliquer. Et là, on fait juste la comptabilité des morts, alors plus 40 ans, plus 50 ans, au bout de 5 minutes, tout le monde s'endort. Et d'ailleurs, tout a déjà été dit dans les journaux le matin.
Pardon,
franchement, comme acte politique...
Pardon de poser la question un peu cash, mais donc vous êtes en train de me dire qu'il n'a pas le niveau, Jean Castex, par rapport à l'enjeu qui est en train de se jouer en ce moment.
Je pense qu'effectivement, alors d'une certaine façon, peut-être que pour Emmanuel Macron, il a une influence très importante, c'est-à-dire qu'il joue vraiment, pour la première fois, le rôle de paratonnerre. Généralement, bon, c'est vrai qu'Edouard Philippe était même plus haut que Emmanuel Macron dans les sondages, et au fond, ça, les présidents n'aiment pas ça. Lui, il joue vraiment pleinement son rôle de paratonnerre, mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que quand, par exemple, on compare les prestations de Bruno Le Maire, qui sont toujours assez éclatantes, et toujours dans un environnement explicatif, pédagogique et mondial à la fois, c'est vrai que quand on les compare tous les deux, on se dit, il n'y a pas photo.
Alors, on parlait de perspective. Hein, le Premier ministre vient de le dire à l'instant. 1er décembre, c'est la clause de revoyure pour les petits commerces. Mais il dit d'ores et déjà qu'il n'y aura pas d'ouverture possible des bars et des restaurants après le 1er décembre. Ça, c'est une déconvenue aussi, Emmanuel Ducrot.
Pas pour les bars et les restaurants, parce que je pense que personne ne s'attendait à ce que les bars et les restaurants rouvrent. Enfin, on a clairement identifié que c'était des foyers de contamination. Ça paraît évident qu'ils ne rouvriraient pas. En revanche, pour le secteur du commerce et de la grande distribution, c'est vraiment une désillusion, parce qu'on leur avait promis une revoyure. Alors, ils ne pensaient pas qu'ils allaient rouvrir demain, mais ils pensaient que peut-être la semaine prochaine, ils pourraient avoir des autorisations de rouvrir. c'est une énorme période pour eux, là, cette période. Cette période de novembre, c'est la période de tous les achats non alimentaires.
Avec un moment très important qu'ils vont rater, le 27.
Le 27, c'est le Black Friday.
Et c'est évidemment les e-commerçants qui vont en profiter.
Alors, il faut quand même bien comprendre que la grande distribution s'est organisée pour faire elle-même de la vente en ligne. Elle n'est pas complètement hors du coup. Elle le fait aussi. Les grands distributeurs se sont organisés pour vendre leurs jouets en ligne. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même une problématique de logistique et de stock. Les stocks de la grande distribution débordent et sont ras le plafond d'articles qui sont supposés être vendus d'ici à la fin du mois de novembre. Oui. Et après, il y a le reste qui arrive. Le frais, le blanc, tout ça, c'est de la logistique. Ce sont des chaînes qu'on ne peut pas arrêter en appuyant sur un
bouton.
Mais
vous avez vu ce qui se passe à la différence du premier confinement. C'est-à-dire que cette fois, la grande distribution est profondément affectée avec la fermeture des rayons non essentiels.
Elle aussi,
Carrefour, Auchan vient d'annoncer du chômage partiel
le
pour un tiers de ses salariés. Le printemps annonce la fermeture de 7 magasins.
Ça, personne ne le fait de guetter.
Oui, c'est, mais évidemment... Mais on vit une période quand même dingue. Je veux dire, vous regardez autour de vous, Genève, on pense que les citoyens sont disciplinés, que c'est une ville propre et bien organisée. C'est un des lieux de contamination les plus explosifs d'Europe. Donc, il n'y a pas d'endroit où qui échappe. Londres a fait une autre stratégie, la Suède a fait une autre stratégie, et ils sont obligés de finalement faire du confinement. Partout, ça explose. Et particulièrement en Europe, 40% des nouveaux cas sont en Europe parce qu'il y a une population très dense. Donc on vit quand même un moment grave. Alors les gens disent oui, pour préserver la vie des vieux, on va nous demander de mettre des scaphandres, faire tout ça à nos libertés. Non, c'est pas que les vieux, c'est qu'est-ce qu'on dira le jour à la sortie d'un hôpital, on aura 50 personnes qui étouffent parce qu'elles ne peuvent pas rentrer dans un truc de réanimation.
D'ailleurs, tous les gens qui ont été hospitalisés, qui sont allés en réa, disent il faut le voir pour le croire.
Voilà. Et donc, si on a une augmentation qui est exponentielle, il y a un moment, le pic, il devient plus acceptable par la population. Donc, c'est ça qu'ils veulent éviter. Ce n'est pas du tout pour préserver la vie des vieux contre les jeunes. C'est ridicule de dire ça.
La grande crainte de l'exécutif, c'est Bergame. Vous vous rappelez de ces images de Bergame? On avait vu des gens qui étaient dans les couloirs des hôpitaux. On avait dû mettre l'armée à disposition pour transporter les corps des personnes décédées. Ces images-là, elles sont traumatisantes. Et c'est absolument ce que l'exécutif veut éviter.
Vous parliez de Bruno Le Maire tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a aussi une ligne de fracture au sein du gouvernement. Bruno Le Maire, d'un côté, qui pousse pour soutenir les petits commerces.
Non,
et puis de l'autre côté, Véran et Castex.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est normal. Chacun est dans son rôle. Il y a une crise sanitaire et il y a une crise économique. Alors, le type qui est responsable de la crise économique, il dit desserrer un peu. Et ceux qui sont responsables de la crise sanitaire, ils disent non, on ne peut pas.
Mais à la fin, c'est le président qui tranche.
Pardon ? À la fin, c'est le président qui tranche. Donc, mais vous vous rappelez, dans la dernière, même la période du premier confinement, justement, il y avait déjà une espèce de fracture entre Édouard Philippe et le président de la République. Édouard Philippe était pour un confinement plus lent. Et là, au fond, Emmanuel Macron s'est un peu rendu et se rend aux raisons de ceux qui disent...
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux lignes de lecture ce soir de cette conférence de presse. Soit on dit le gouvernement ne desserre pas la vis jusqu'au 1er décembre, ou soit on l'interprète en disant le 1er décembre, c'est le moment où il va desserrer la vis. C'est deux façons de voir les choses. Soit on est pessimiste, soit on est optimiste.
Il fallait peut-être donner un objectif.
Sur la ligne de fracture entre ceux qui sont sur uniquement la problématique du nombre de malades de Covid et ceux qui sont sur l'économie. Moi, je pense qu'une des erreurs du gouvernement... C'est en septembre, ils n'en ont parlé que du plan de relance. Il n'y en avait que pour le plan de relance. Ils avaient dans la tête le chiffre formidable de croissance qui revenait. Et pendant ce temps, il y avait tout ce que disaient les scientifiques sur l'arrivée d'une deuxième vague auquel j'ai l'impression que le gouvernement était plus sensible à ce qui se passait sur le plan économique que ce qui se passait sur le plan sanitaire. Et c'est arrivé très vite et très fort.
Alors, on reviendra sur les annonces de Jean Castex à partir de 19h dans le journal. Je voudrais simplement, juste après la pause, dans quelques secondes, qu'on dise un mot, vous parliez de relance justement, qu'on dise un mot de ce qui s'est passé aujourd'hui à Béthune, Bridgestone. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h50, les grandes voix du jeudi. On continue bien sûr de garder un œil sur la conférence de presse du Premier ministre et sur les mesures sanitaires. Et on va évoquer ensemble l'autre grande actualité de l'après-midi. L'usine Bridgestone à Béthune, c'est fini. Malgré la mobilisation du gouvernement, la direction du groupe ne veut pas du plan de relance. Il y a à la clé 863 emplois. Agnès Pannier-Runacher s'est exprimée aujourd'hui à la mi-journée, ministre déléguée à l'Industrie. On l'écoute.
Bridgestone a fermé la porte. Bridgestone quitte le site de Béthune, mais nous serons là aux côtés des salariés pour trouver les meilleures solutions possibles. Aux côtés des salariés pour travailler sur des scénarios de reprise, aux côtés des salariés pour faire en sorte que le plan social qui est aujourd'hui proposé soit amélioré, aux côtés des salariés pour faire en sorte que le jour où ce site serait amené à fermer, dès le lendemain, les perspectives de chacun des salariés soient connues par eux et qu'ils puissent voir la lumière au bout du tunnel.
Quel aveu d'échec, Emmanuel Ducrot, c'est l'échec de l'État stratège. Bruno Le Maire, on s'en souvient, et Agnès Pannier-Runacher avait dit « Vous verrez, nous allons sauver le site, nous allons sauver le site », comme à chaque fois.
Mais qui croit encore que l'État peut sauver des sites tenus
par
des...
Mais ça abîme le message politique quand même.
Ça abîme le message politique, mais il faut quand même avoir conscience de ses limites à chacun et de son rôle à chacun. Enfin, je veux dire, moi je persiste à dire que ça n'est pas à l'État de faire de la stratégie d'entreprise. Alors que l'État bâtisse une stratégie industrielle, c'est-à-dire les conditions pour que les entreprises s'implantent, les conditions pour que le travail soit compétitif et les conditions aussi pour que le dialogue social se déroule de manière correcte. Parce que Bridgestone, c'est un échec collectif. Hein. C'est l'échec d'une entreprise qui n'a pas investi, c'est l'échec de syndicats qui n'ont pas voulu négocier et c'est l'échec d'un gouvernement qui a probablement mal accompagné le dossier. Mmh. C'est collectif. C'est vraiment un aveu d'échec collectif.
Guylaine Ottenheimer, faut-il que Bridgestone, le groupe japonais, rende l'argent, comme le disent aujourd'hui l'opposition? Vous savez combien ils ont touché? J'ai été regardé. Entre 2008 et 2016, 500 000 euros ont été versés par le conseil régional des Hauts-de-France et plus de 120 000 euros octroyés par la région. Vous m'étonnez qu'aujourd'hui M. Bertrand est très en colère. Oui. Ça a coûté quand même 600 000 euros cette affaire-là de subvention.
Oui, enfin 600 000 euros par rapport aux sommes qui concernent ce dossier, c'est pas grand-chose. Ils peuvent les rembourser.
Non, mais c'est de l'argent.
Ce que je veux dire, moi, le problème c'est avec l'Europe. Parce que ça fait très longtemps que Bridgestone fabrique là des pneus qui sont obsolètes. Qui vont sur des vieux camions.
Oui, parce qu'ils sont positionnés sur du bas de gamme et qui sont concurrencés par le low-cost asiatique.
Et qu'ils ont investi dans deux usines en Pologne et en Hongrie, hyper modernes, hyper productives, où ils sortent des milliers de pneus, ils veulent arriver devant Michelin, ils ont la dernière technologie. Or, c'est des pays où le SMIC est à moins de 500 euros par mois, et où le terrain pour s'installer est sans doute pas cher, et où il y avait des aides européennes pour s'installer. Mmh. En plus de ça, l'Europe a construit des autoroutes à travers toute l'Europe pour que tout le monde puisse faire du commerce facilement. Étonnez-vous qu'après, on enlève les usines de France pour aller les mettre dans des endroits où c'est moins cher.
C'était inévitable, c'est ça?
Hein?
C'est ce que vous dites, c'était inévitable?
C'était programmé par l'Europe. Ouais, là, j'ai un moment où il faut quand même aussi se poser des questions. Comme on dit, on fait un grand marché ouvert avec des gens qui d'un côté gagnent 500 balles et de l'autre côté, ils en gagnent 1500. Bon, il y a un moment où ça... Bon, que peut faire le gouvernement face à ça? Et puis, surtout, que peut faire un gouvernement face à un groupe étranger, à un groupe privé dans lequel il n'a pas... il n'a pas d'action, dans il ne pose pas d'action, il peut simplement effectivement encourager de la voix et du geste.
Sauf dans cette affaire-là, le gouvernement était prêt à mettre de l'argent et à financer.
À mettre de l'argent. Et d'ailleurs. Ils ne voulaient pas, ils avaient déjà leurs usines en Pologne et en Hongrie.
Oui. Et de toute façon, même quand on dit que la responsabilité est collective, c'est vrai qu'on sait qu'en février, la CGT s'était opposée à une reprise volontaire du travail que voulaient les autres syndicats.
Donc, ils ont refusé de passer de 32 à 35 heures en échange d'investissement dans l'entreprise.
Enfin, ils sont, les autres syndicats étaient d'accord, eux pas.
Oui.
Mais de toute façon, on voit bien les limites du rôle de l'État là-dedans.
Ils l'ont laissé mourir, leur usine.
Emmanuel,
il y a deux points. D'abord, l'État actionnaire, généralement, ça ne donne pas grand-chose de bon. Hein. On l'a vu chez Renault, l'État était là, il n'était pas là, ça ne change absolument rien.
Enfin, chez Air France, ça leur a quand même sauvé la mise.
Oui, c'est vrai. Et puis, il y a cette affaire de montée en gamme. À un moment, le gouvernement, par la voix de Agnès Pannier-Runacher, qui, je pense, a vraiment fait son boulot avec conviction chez Bridgestone, elle avait proposé une montée en gamme. Mais en même temps, le message que renvoie la France à ses entreprises, c'est on vous demande de faire du pneu pour monter en gamme, mais en même temps, les voitures qui seront équipées avec ces pneus montés en gamme, on n'en veut pas, et on va les taxer par ailleurs. Enfin, je veux dire, le message est marche, enfin, claudique, comme on dit. Ça boite dans tous les sens, il n'y a rien de très cohérent dans tout ça.
Alors, on multiplie aujourd'hui les coups de menton, mais il n'y a pas de solution.
Oui, je pense que le gouvernement a fait son boulot en amont. Ça fait longtemps qu'ils avaient repéré que cette entreprise n'investissait plus, qu'elle était sur un marché déclinant. Le président de Hauts-de-France s'est lui-même investi. Ils sont allés voir plusieurs fois. Ils ont proposé des aides. Ils ont proposé des plans. Les autres, ils ont dit, mais non, nous, en fait, ils ont dit, on s'en fiche. Nous, on s'en va. On laisse le truc mourir et on va ailleurs.
Et c'est pareil
et là,
chaque fois.
Et là, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est le problème.
Vous souvenez Arsenal Mittal, vous vous souvenez Général Electric.
La seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est...
On paye la désindustrialisation, en quelque sorte. Ce n'est pas le premier groupe qui fait ça. Les gens qui sont battus pour garder les usines dans leur circonscription ou dans leur département se sont heurtés à la même chose. C'est vrai qu'on ne peut pas à la fois miser la mondialisation et l'européanisation
et à la fois miser le local, surtout sur une production obsolète.
Ouais,
et puis se réjouir chaque fois qu'un étranger vient sur notre sol pour investir.
Et puis les nouvelles mesures sanitaires ne vont pas arranger les choses. Vous avez vu la filière automobile qui demande une réouverture des concessions pour pouvoir vendre des voitures, car les chaînes sont à l'arrêt avec des impacts énormes sur l'emploi.
Là aussi, c'est beaucoup dû à la crise. On ne peut pas se déplacer, on peut faire un kilomètre autour de soi. C'est vrai qu'on ne va pas acheter des voitures maintenant.
On peut acheter des voitures en click and collect, mais on n'a pas le droit de les essayer avant. Alors, quand on dépense 40 000 euros pour une voiture,
c'est comme les appartements, vous savez, c'est comme les appartements, on n'a pas le droit de les visiter.
Emmanuel Ducrot.
La France a un problème parce qu'elle n'aime pas son industrie. Elle méprise son industrie. Souvent, l'industrie, c'est quand même vu comme un truc assez sale, qui pollue, etc. Et en même temps, il y a quand les grands sites industriels ferment et on pleure des larmes de sang. Enfin, je veux dire, on a un problème avec ça quand même.
Bien, merci à toutes les trois. Merci de nous avoir accompagnés ce soir dans le débat des grandes voix du jeudi.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans quelques secondes, 18h57, le journal. Et puis comme chaque soir, le Club des idées consacré ce soir aux annonces de Jean Castex.